Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la disparition des services publics.
Au cours du siècle dernier, les guerres et l'exode rural ont vidé les campagnes d'une grande partie de leur population. L'esprit républicain et le civisme y étaient vivaces, de même que la capacité de résistance républicaine. La modernisation de l'économie du pays et de ses infrastructures a continué ce dépeuplement rural qui a grossi les villes et leurs faubourgs. La population est passée en deux générations du monde paysan au monde ouvrier et urbain. Cette évolution démographique qui s'est accompagnée de la disparition des services publics de proximité et de la fermeture des commerces a profondément affecté et précarisé les habitants de ces vastes territoires, devenus pour certains sinistrés. Fermeture des maternités, disparition des bureaux de poste, des gendarmeries, trains. L'État s'éloigne peu à peu de nos forêts de pins enneigés, des routes étroites, sinueuses et escarpées de nos Pyrénées, de nos petits bleds où vivent pourtant une partie des habitants de l'Occitanie. Mais alors peut-on envisager une réimplantation des services publics dans les communes rurales? Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux pour réfléchir ensemble à ces questions. La première d'entre eux, Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental régional, surnommée aussi le CESER, nous présente les caractéristiques du GERS en compagnie d'Éric Cantarouti, secrétaire général CGT du GERS.
Alors, le département du Gers est vraiment classé département rural. C'est une densité parmi les plus basses de France, puisqu'il est avant-dernier, avant la Lozère, avec moins de 30 habitants au kilomètre carré. Donc, les principales caractéristiques économiques, c'est évidemment, du coup, l'agriculture, qui est une grosse activité économique. Donc, qui dit agriculture, dit aussi industrie agroalimentaire. Et depuis donc maintenant quelques temps, il y a aussi la présence des sous-traitants de l'industrie aéronautique sous l'influence d'Airbus à Toulouse. Il ne perd pas des habitants, il est plutôt relativement stable. Il connaît une certaine implantation de néo-ruraux. Après, il reste ce qu'il est, c'est-à-dire assez stable au niveau population. Je crois qu'on est à environ 173 000 habitants. Voilà, c'est un département qui est tranquille, qui bouge, qui subit pas des variations démographiques importantes.
Entre 180 et 790 000 habitants. Et ça, alors une des caractéristiques, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Si Roche est centrale au niveau géographique, on voit s'opérer un penchant vers évidemment la métropole toulousaine qui est en train d'absorber, on va dire, l'ensemble des forces les plus jeunes, on va dire, qui vont travailler vers Toulouse et qui dépeuplent complètement après tout l'ouest du département, avec des zones où là, pour le coup, en termes de services publics, on se retrouve avec des zones grises, voire très très sombres.
Nous écoutons maintenant Michel Soriano, maire de Lasserran depuis 2008, qui nous parle des habitants de sa commune.
Donc, la commune de Lasserran, en 1860, avait 400 habitants pour 100 maisons. La population est descendue jusqu'en 1964, elle est descendue à 130 habitants. Et depuis 1964, elle remonte, et là, cette année, on est arrivé à 400 habitants. Pourquoi c'est remonté? Parce qu'on est une commune périphérique au centre du département. Les communes rurales qui sont un peu plus éloignées ont beaucoup plus de mal et perdent de la population. Donc nous, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on est aux portes d'Auch. Voilà. Donc nous n'avons pas de commerce, mais 95% de la population travaille sur Auch. À l'époque, il y avait 30 agriculteurs, aujourd'hui, il n'y en a pas 10. Donc des jeunes qui arrivent, très dynamiques, performants. Je suis surpris de voir des jeunes arriver. Au début, je prenais pour des bobas cool, et pas du tout. C'est des mecs qui mouillent la chemise, comme on dit. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir que des jeunes reprennent des propriétés et se mettent à fond. Après, ils en bavent quand même. Mais bon, ils le savaient, je pense. Nous, on n'a pas de problème de population. Au contraire, on a beaucoup de demandes. Là, on vient d'ouvrir un café. L'inauguration, le jour du café, 300 personnes. Et 15 jours après, on a refait un spectacle avec 250 personnes. Alors, je ne dis pas que c'est 250 personnes de la commune. C'est 50-80 personnes de la commune, et après c'est les copains, des copains et les gens d'à côté qui ont envie de faire la fête, de rencontrer, de partager.
Dans le Gers, plusieurs services publics se dégradent ou disparaissent. Nos interlocuteurs en font le constat. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental.
On peut le voir à plusieurs niveaux. Si on prend par exemple le service des impôts, nous avions à un quart d'heure des services en permanence à disposition des usagers pour nous aider sur différentes questions au niveau des impôts. Aujourd'hui, ils ont des horaires d'ouverture extrêmement limités, donc l'accessibilité se fait de plus en plus difficilement puisqu'il faut être disponible quand les bureaux sont ouverts.
Nous écoutons André Belvez, agriculteur à la retraite et membre du bureau national du syndicat MODEF, ayant pour but de défendre les petites exploitations agricoles.
À l'époque, je vais faire un peu d'historique, j'étais conseiller municipal. Nous étions on était trois communes de notre canton à être rattachées sur la perception de Simon qui dépendait de notre canton. Et le maire de l'époque avait dit, on nous demande si on veut partir sur Masseub ou on reste sur Simon. Il avait dit, pourtant c'était pas un mec de gauche, notre maire, mais il avait dit, il faudrait voter de rester à la perception de Simor pour la maintenir. Finalement, la perception de Simor a fermé, elle est partie à Saramon, de Saramon elle est partie à Gimont. Nous avons été rattachés à Masseub qui a disparu. Voilà. Donc les gens, quand ils veulent faire des démarches auprès des impôts, il faut partir à Mirande. Une partie de Mirande, maintenant Mirande ne va plus que collecter, il va falloir venir sur Auch. Donc avant moi j'aurais pu faire 8 km pour aller à la perception, expliquer les problèmes que j'avais. Maintenant il va falloir que j'en fasse 40, prendre rendez-vous sur une plateforme téléphonique. Avec l'horreur des plateformes téléphoniques que j'ai, parce que c'est tellement impersonnel, c'est tellement difficile. L'autre jour j'ai eu un problème avec mon téléphone portable, j'ai appelé, on m'expliquait qu'on allait m'envoyer un SMS pour débloquer mon téléphone. Mon portable était bloqué. Voilà, donc j'ai fait 40 km pour venir à Auch et la personne a mis 10 secondes pour débloquer. Et voilà. Déjà, les impôts, les trésoreries, c'est très, très compliqué de les avoir. Les maires, notamment pour les maires des petites communes, je pense que M. Soriano en aura parlé, le percepteur aidait beaucoup les maires à faire les budgets. Il y a certaines maires qui arrivaient là un peu, qui tombaient, qui se retrouvaient propulsées maires, qui ne savaient pas faire le budget, et c'était le percepteur qui faisait le budget. Ça, c'est un truc déjà très, le premier des services public qui manque, je pense, c'est la trésorerie pour la vie de nos petites campagnes. Donc la gendarmerie qui a disparu. Alors même quand je prends un PV au bord de la route, je ne suis pas très très content, mais c'est parce que j'ai fait une gaffe. Mais bon, la gendarmerie, voilà, pour savoir ce qui se passe. Alors, dans mon secteur, on n'est pas encore trop touché, mais il y a une recrudescence des vols à la campagne, notamment maintenant de carburant, parce qu'au prix où est le carburant actuellement, et bien, les gens, voilà. Même s'il y avait des véhicules diesel, c'est interdit de rouler rouge. Eh bien, il y en a qui, parce que c'est pas forcément entre agriculteurs qu'on se pique le carburant. Souvent, c'est des bon. Ben, je peux comprendre. Je n'accepte pas le vol, mais je peux le comprendre. Le gars qui a de très grosses difficultés, comme disait Coluche, souvent les fins de mois étaient très difficiles à la maison, surtout à partir du 2. Le service public EDF a disparu. Quand il y a une panne, bon, certes, on arrive à être dépanné, mais bon, les gars ne sont pas. Moi, je me rappelle, le gamin, c'était un gars qui n'était pas très loin, qui venait relever les compteurs. Alors, quand il y avait un problème, c'était simple. Les agents de terrain, ils l'appelaient. Bon, il s'appelait Gaston. Le gars, et Gaston, on m'a dit qu'il y avait... Ah oui, mais tu vas là. Les gars, ils arrivaient en 5 minutes. Maintenant, vous appelez, pareil, on tombe sur une plateforme. Voilà, on a jamais les réponses. Quoi, voilà. Certes, maintenant, on dématérialise beaucoup, on reçoit beaucoup par Internet. Voilà, ce qui est un peu une aberration. Mais bon, voilà. Mais des fois, on est obligé de renvoyer un courrier rapidement. Eh bien, il faut vite prendre la voiture, mais aller plus loin, parce qu'avant, la levée se faisait beaucoup plus tard, tandis que maintenant, les levées, elles se font. Le facteur, quand il est passé, ben, la levée, c'est déjà trop tard. Quoi, voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faudrait revoir. Mais bon, je pense que le gouvernement actuel n'est pas dans cet objectif-là. Mais parce qu'il y a de l'argent à se faire. Si on supprime un service public, on met du privé en face. Et le privé est payant. Il n'y a qu'à voir un exemple tout simple. Avant, on allait à la préfecture pour faire sa carte grise lorsqu'on changeait un véhicule d'occasion. Bon, neuf, des fois, ou même d'occasion, on arrivait à négocier avec le marchand. Mais si on achetait entre particuliers, on allait à la préfecture, on repartait avec sa carte grise. Maintenant, par Internet, c'est la croix et la bannière. Il faut vraiment maîtriser. Alors si, vous avez des gens qui ont compris, voilà, et vous payez. Voilà. Alors certes, avant on le payait, mais c'était dans le système des services publics.
La disparition des services publics voudrait être compensée par un tout numérique qui, comme l'a évoqué André Belvez, agriculteur à la retraite, peut conduire à des difficultés. Le maire de Lasserran, Michel Soriano, revient sur ce problème.
Alors, le numérique, c'est très bien, la fibre optique va arriver. Je sais que le département du Gers, ça fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais le numérique, ça ne règle pas tout. Moi, j'ai 200 foyers. Sur les 200 foyers, j'ai 160 adresses mail. C'est-à-dire, quand j'ai un message à faire passer, je vais à l'ordi, hein, je clique, et hop, dans la seconde qui suit, 160 maisons ont le message. Mais vous allez me dire, il vous reste 40 maisons, 30 ou 40 maisons. Eh oui, mais c'est les personnes âgées, ils n'ont pas d'ordinateur.
Certains habitants, et surtout les personnes âgées, se voient lésés par la délocalisation des commerces. S'il ne s'agit pas à proprement parler de services publics, cette situation modifie l'accessibilité à certains services essentiels pour les habitants des communes rurales. Et Michel Soriano, maire de Lasserran, nous parle de la situation des habitants de sa commune.
Si on veut aller acheter le pain, ben, il faut prendre la voiture, il y a 5 km à faire. Et le pain, c'est tous les jours. Hein. Et le papy, alors le papy, la mamie, il se démerde, il y a le voisin qui va à Roche et qui lui fait ses courses. C'est de l'entraide, heureusement qu'elle y est encore. Mais quand l'entraide va... Il y a de plus en plus de gens qui sont renfermés sur eux-mêmes.
Même le service public d'enseignement n'échappe pas à la menace de la disparition, comme dans la commune de Lasserran, dont Michel Soriano est le maire.
Alors, le problème que l'on a, nous, c'est qu'on a une école, un regroupement scolaire avec la commune voisine, et l'école, elle a été faite il y a 10-15 ans, avant que nous arrivions. On fait une superbe école. Et nous, nous nous battons pour garder cette école ouverte. Le problème, c'est que chaque année, À l'époque, il fallait avoir 90 enfants pour... il fallait 65 enfants pour garder les 4 classes. Maintenant, c'est 60, après c'est 55. Et on est toujours sur le fil pour fermer une classe. Puisque nous avons 4 classes avec le regroupement scolaire. Pourquoi ça diminue aussi? Alors là, on va attaquer un problème très très grave et qui va conditionner l'avenir des communes rurales et que personne ne ressent actuellement, c'est le zéro artificialisation des terrains. C'est-à-dire qu'une commune ne pourra plus développer sa commune dans la construction. On aura zéro terrain à construire en 2050. Ça veut dire qu'on va arrêter les constructions en zone rurale, mais comme en ville, hein, c'est pareil, hein. Donc ça veut dire que plus d'enfants dans l'école. Pourquoi? Parce que vous faites du pavillonnaire. Vous amenez des familles, certes, avec des nouveaux. Mais les enfants, quand ils partent au collège, les gens, ils restent là.
D'après Michel Soriano, maire de La Serran, la loi Climat et Résilience du 24 août 2021, visant à encadrer l'urbanisation et à réglementer certaines constructions, peut avoir pour effet, en empêchant la venue de nouvelles familles dans les communes rurales, de contraindre certaines classes à fermer. Pour pallier la fermeture des écoles locales, certains élèves se voient dans l'obligation de multiplier leur temps de transport pour aller étudier dans des classes surchargées, comme nous le révèle André Belvez, agriculteur à la retraite.
L'école, nous on se bat, moi j'ai été conseiller municipal, je me suis battu pour que l'école reste. On fait fermer les écoles dans les campagnes, donc on veut attirer les gens dans les campagnes, voilà, on veut revitaliser les campagnes. Suite à l'épisode Covid, beaucoup de gens veulent venir se mettre au vert un peu à la campagne, ce que je peux comprendre. Mais on ferme les écoles, donc ce qui fait que les gamins, alors moi quand je vois des petits bambins, si je pars un peu tôt le matin, quand je vois des petits bambins au bord de la route à 7h du matin ou 7h30, voilà, en train d'attendre le bus, ça m'horripile un petit peu, quoi. Voilà, les gamins, ils ont besoin de sommeil, voilà, et faire des distances et se retrouver dans des classes surchargées, alors que, donc, comme je disais tout à l'heure, ma maman était institutrice, elle a eu des classes surchargées, mais pas toujours. Et voilà, et quoi de mieux qu'une petite école où le maître peut s'occuper vraiment des gamins, voilà, et faire vraiment son métier avec passion. Le maintien des petites écoles, c'est la vie d'un village. Je vois chez moi, par chance, on a encore le regroupement, on a encore un regroupement scolaire, mais là c'est mort depuis quelques jours. Parce que j'entends pas les gamins piailler. Moi j'ai l'école qui est à 200 mètres de chez moi. Et bien, des fois quand je bricole, il y a la récréation. Je vois le bus passer, les parents qui viennent. Voilà. Ça fait de l'animation. Quand on passe, l'école est ouverte. Voilà. Et là, c'est moi. Voilà. Le primordial, c'est le service public avec une école qui. Voilà.
D'après le maire de La Serran, Michel Soriano, dont la commune est rattachée à une communauté de communes, le plan de transport n'est pas cohérent avec les besoins des habitants.
Comme on est aux portes d'Auch, on a tous les commerces à 5 km. Depuis un an, la communauté de communes a développé un service pour transporter les personnes âgées justement qui veulent se rendre à Auch. Le problème, c'est que nous dépendons d'une communauté de communes qui est de l'autre vallée. Donc le service de ramassage, enfin, une fois par jour, hein, en plus c'est pas très cher, je crois qu'il paye 2 euros le trajet, jusqu'à Auch, va ramasser de Saint-Blancard, Masseuve, Seyssamp, et va rentrer sur Auch. Mais nous, moi, je suis sur la route de Tarbes, donc le bus il passe pas, donc moi j'ai zéro, et donc moi je paye pour le transport. Et donc j'ai demandé à changer de communauté de communes, puisque j'ai rien à faire avec Seyssamp-Masseub, je n'y vais jamais. Mais aucun administré ne travaille sur Seyssamp-Masseub, il travaille à Auch ou sur place, agriculteur. Et c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va devenir des déserts. Après, il faudrait que nous, on sache expliquer les avantages d'une vie rurale. Et ça, je crois qu'on ne sait pas le faire. Là, il y aura un travail à faire. Expliquer aux citadins que, heureusement qu'on est là.
La disparition des services publics produit ainsi de lourdes conséquences sur le quotidien des habitants, allant jusqu'à les impacter émotionnellement et menacer la survie même des campagnes. Michel Soriano, maire de Lasserran, nous a parlé de la figure du facteur.
La Poste, je vous le dis, c'est un service public qui fonctionnait à merveille il y a quelques années, où le facteur était un personnage de la famille. Il rentrait dans les maisons, il frappait pas, il rentrait dans la maison, il posait le courrier à la mamie sur la table, et il disait deux mots, et il repartait. Et quand on voyait la voiture jaune dans les campagnes, aujourd'hui, la voiture jaune, quand elle passe, c'est bien. Avant, elle passait à 10h, maintenant, elle passe à 13h30, 14h, voire 15h, quand elle passe. Et des fois, elle passe pas. Et donc, quand vous avez... moi, je me suis plaint dernièrement pour, par exemple, le journal local. Vous recevez le journal local le lendemain. Il n'a plus aucun intérêt. L'information, elle a besoin au jour le jour. Alors, ils ont rectifié le tir. Et donc maintenant, ils payent des jeunes quand le facteur préposé n'est pas disponible ou malade. Moi, j'ai eu la factrice qui a été malade pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai vu passer je ne sais combien de personnes. Hein. Ils passent à 14, 15, 16 heures. Hein. Pas 16 heures, mais 15 heures. Et on ne les voit pas. Aucun contact. Le facteur, avant, faisait partie de la famille. Aujourd'hui, c'est... c'est inconnu.
D'expérience de ouais. Service public, ouais. Maire donc de 67 ans,
ouais.
68
ouais,
ans,
c'est ça, c'est ça.
A la possibilité aujourd'hui d'avoir connu donc l'avant transformation
le facteur de
en
l'époque.
Commerce, la Poste,
ouais.
La Poste service public et aujourd'hui la Poste service commercial.
Oui.
Il y a une très grosse différence, donc.
Ah ben oui. Le facteur, il y a 20 ans, il faisait partie de la famille, il faisait partie du village. Quand il y avait la fête du village, on invitait le facteur. Et le facteur était là pour faire la fête avec les habitants. Quand il y avait n'importe quelle manifestation, le facteur était invité. Il faisait partie de la famille, il faisait partie de la commune. C'est fini. Aujourd'hui, les facteurs, dans le mois, vous envoyez 5-6... Là, il porte plus d'argent. Bon, c'est un peu normal, peut-être, je sais pas. Le lien social qu'avait le postier, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est un anonyme.
Oui, mais qu'est-ce que l'on peut répondre à des gens qui pourraient nous traiter de réactionnaires en disant que ben, vous pensez qu'encore comme il y a 40 ans,
ouais.
Aujourd'hui, la modernisation, tout va beaucoup plus vite. Il y a des réclamations de résultats.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait répondre par rapport à ça sur une commune, encore une fois, de rurale ?
Parler finances, fric, et petit à petit, et bien, ça va éclater. Moi, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils n'en pourront plus.
Bien que des initiatives de réimplantation des services publics existent, telles les Maisons France Services, celles-ci ne répondent pas aux problématiques du territoire. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental, régional, a abordé cette question.
Et donc, il y a les fameuses Maisons France Services qui essaient de faire croire que les services publics sont quand même présents. Le constat, c'est que les Maisons France Services, eh ben, c'est pas ouvert de toute façon toute la semaine. Elles ne sont occupées que par un personnel qui n'est pas qualifié. Et c'est impossible de le qualifier parce qu'il est supposé rendre des services sur tellement de choses différentes qu'évidemment il ne saura jamais en proposer. Donc quand ils sont ouverts, ce dont ils sont capables, leur champ d'intervention, ça se limite à ben, « vous voulez prendre rendez-vous parce que nous on ne peut pas vous renseigner ». Donc on est renvoyé à 8 jours, 15 jours plus tard avec donc un rendez-vous et on a peut-être la réponse qui n'est pas gagnée par exemple au niveau de ce service-là. Alors les Maisons France Services sont cofinancées hein, pour partie par l'État mais évidemment pour partie par les collectivités locales, donc il y a encore un désengagement là de l'État, d'où des services publics eh bien au rabais. Faute de moyens, on ne peut pas accéder à tous les services, donc elles sont censées être peuplées de 7 à 8 organismes, services publics. On peut compter les différents services de la sécurité sociale, de la MSA, de Pôle emploi, des impôts. Mais de toute façon, vous n'avez jamais personne en direct. Vous avez toujours une prise de rendez-vous pour espérer avoir une écoute, un conseil et autres renseignements que vous êtes venu chercher. Et le financement est bordé aussi pour une année, je crois que c'est 3 ans. Et après, on ne sait pas du tout si l'État va renouveler le financement. Donc, c'est extrêmement fragile comme pseudo-service public. Et on peut même pas parler de privatisation. On peut simplement parler de désertification, puisque de toute façon, ces maisons France Service sont logées à la poste, voilà, dans des locaux plus ou moins... voilà, où on trouve une petite place pour accueillir tel ou tel service, mais jamais la compétence qu'on aurait pu trouver dans un vrai service de l'impôt, par exemple. Pour Pôle emploi, c'est pareil. C'est devenu quand même extrêmement complexe. Et à partir de là, il faut que quelqu'un se déplace sur rendez-vous pour pouvoir enseigner. C'est un service au mieux différé quand il est rendu.
L'exemple des maisons France Service illustre bien la volonté de l'État d'orchestrer un démantèlement progressif du service public, présenté par l'État comme trop coûteux. Il semblerait, selon nos acteurs locaux, qu'il s'agisse davantage d'une question de rentabilité. Michel Soriano, maire de La Serran.
Moi, j'ai remarqué que l'État veut supprimer les communes rurales. Ça, ça coûte cher, soi-disant. Ça, on en peut en reparler. Hein. 36 000 communes, ça coûte trop cher. Donc, on va faire des regroupements de communes. Donc, en 1960, là, je ne sais plus quel ministre avait souhaité regrouper les communes. Ça a été un échec. Ils en ont fait une centaine, peut-être, mais c'est tout. Et là, ils sont revenus à l'attaque il y a un an ou il y a 2 ans. Et pareil, il y en a eu beaucoup dans la région nantaise. Sur le département, il y a deux communes qui ont fusionné. Riscle et une petite commune d'à côté. Et du côté de Montréal aussi. Et on voit que ça prend pas.
La réduction de la dépense publique touche aussi le domaine de la santé. Nous écoutons Éric Cantarouti, secrétaire général CGT du Gers.
Plusieurs gouvernements sont passés sans qu'il y ait réellement un investissement important. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, soi-disant, il a été décidé de rebâtir un hôpital gersois, je pèse mes mots et je fais attention à ce que je dis, mais derrière, c'est pourquoi je fais attention, parce qu'en fait, cet hôpital va être rebâti évidemment avec une grande partie d'argent public, sauf que à 50% d'emblée, c'est-à-dire que dès qu'ils ouvriront la porte, dès que l'établissement ouvrira, il y en aura la moitié qui seront à destination des praticiens privés. Donc derrière, c'est une privatisation rampante de tout ce qui peut rapporter. Par contre, tout ce qui peut coûter reste sur la charge et sur le dos du service public. Et c'est dans cela que, petit à petit, quel que soit, on va dire, le secteur dans lequel ce phénomène se passe, on se retrouve avec des populations qui ne comprennent pas réellement, on va dire, ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport qu'il peut y avoir entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que, de façon managériale, de façon avec des termes de communicant, on fait croire à tout le monde qu'il va y avoir quelque chose d'efficient, et à côté de ça, quelque chose qui, de toute façon, deviendra un poids, une charge, quelque chose qui deviendra quasiment obsolète et qui sera offert sur un plateau au service public,
au
secteur marchand. Et donc, évidemment, là, on a des exemples aujourd'hui qui sont sous nos yeux. On a parlé de la poste. On parle là de la santé publique, c'est-à-dire la santé de tout un chacun. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on va être obligé de se soigner en fonction de l'épaisseur de la carte bancaire. Si vous avez une carte gold avec beaucoup d'argent sur le compte, vous aurez beaucoup plus de facilité que de vous soigner que si vous êtes un retraité du milieu agricole et avec une très petite pension, si vous en avez une. Voilà un des effets pervers qu'il y a aujourd'hui dans toute cette obsolescence programmée des services publics, parce qu'en fait, on les rend obsolètes. On rend on montre une image du service public qui est obsolète, voilà, il est dépassé par les événements, il n'est plus moderne, alors que la réponse au public par le service public, il n'y a rien de plus moderne. Quand on regarde la sécurité sociale, il n'y a rien de plus moderne. Elle ne peut pas vieillir, la sécurité sociale, puisqu'elle fait appel à la solidarité au quotidien, tous les jours, de tous les travailleurs. Donc derrière, s'il y a vraiment quelque chose qui est jeune, et qui restera jeune toute sa vie, c'est la sécurité sociale. Et ce système-là, aujourd'hui, ne fonctionne plus dans les services publics, et la désertification des populations entraîne derrière un affaiblissement des services publics, qui entraîne à son tour une prise en charge. Enfin bref, c'est un cercle totalement à l'envers de tout ce qu'on peut imaginer en termes de cercle vertueux, qui pourrait être un véritable service public pour un département comme le nôtre.
Nous écoutons Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental régional.
Alors pour répondre justement aux déserts médicaux, comme l'a très bien souligné Eric, qui sont parfaitement orchestrés, organisés, programmés par la diminution des places en tant que futur médecin. Donc ça a été programmé, donc aujourd'hui nous avons les conséquences du peu de médecins effectivement diplômés qui sortent de ces longues études. Et l'une des pistes les plus positives, c'est justement le salariat des médecins.
André Belvez, agriculteur à la retraite.
Mais c'est toujours pareil, c'est dans l'objectif de diminuer toujours plus le nombre de salariés, donc il manque énormément d'assistantes sociales. Moi, j'ai un copain qui a eu des problèmes de santé il y a 2-3 ans, et on a été très embêtés pour, voilà, c'est moi qui l'ai pris un peu sous mon épaule, et voilà, mais pour avoir une assistante sociale, c'est, alors bon, malheureusement, une était malade, mais bon, voilà, on a encore heureusement le droit de tomber malade dans notre pays. Mais voilà, très difficile de la faire remplacer, très difficile de trouver quelqu'un, et voilà, ça a été quand même, c'est assez galère, voilà. C'est une amorce du manque de soutien à la population, voilà. Moi, je vous dis, moi, je suis à 38 km d'Auch pour aller au centre hospitalier. Voilà, les urgences sont saturées. On a des problèmes pour... Alors déjà, on a le problème des médecins de campagne, on n'en trouve plus. Moi, Matoubi est à la retraite depuis 3 ans. Voilà, et elle continue d'exercer parce qu'elle ne trouve personne pour la remplacer. Voilà, donc c'est pas du service public, mais bon, c'est du service à la personne qui n'y est pas. Et les urgences à Auch sont saturées, il manque de personnel, et il y a beaucoup de petites cliniques, enfin de petits hôpitaux locaux qui ont été fermés. Et c'est très dommage parce qu'on est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir être soigné. Et bon, alors quand c'est un petit bobo, enfin voilà, un truc qui n'est pas vraiment urgent, bon, ça peut le faire, mais quand c'est pour des problèmes cardiaques ou tout ça, voilà, on est trop loin, quoi, voilà, ça va trop loin, et on risque d'assister à des décès, voilà.
La perte des médecins en zone rurale, il y a eu des morts, il y en aura.
Toujours dans le secteur de la santé, Fabrice Lamargue, délégué syndical de l'hôpital psychiatrique d'Auch, nous a parlé du manque de moyens du secteur psychiatrique et de ses conséquences.
Il y a les mêmes difficultés qui sont tout simplement les conséquences de la politique nationale, avec un manque de moyens pour soigner et des conditions de travail totalement dégradées pour les personnels qui sont en place. Manque de moyens, c'est un manque de lits. On n'a pas suffisamment de place pour accueillir les gens qui en auraient besoin. Nous, on considère à la CGT, à l'hôpital psy, que c'est évidemment la conséquence d'une politique décidée. Il est décidé nationalement de réduire les dépenses publiques, et particulièrement les dépenses de santé. Ben, ça a des conséquences. La conséquence, c'est par exemple, on va fermer des lits, et comme ça, en fermant des lits, on fait de sacrées économies. Un jour sur deux, notre hôpital ne pouvait pas recevoir de nouveaux patients dans notre hôpital. Il y a totalement un problème dans l'équation. L'administration et les politiques ne sont pas à l'écoute des besoins de la population et des analyses des professionnels. Ils sont juste là pour appliquer une politique qui est réduction de la dépense publique, je dirais, quoi qu'il en coûte. Quoi. Et par exemple, notre hôpital, qui est un petit hôpital, a un budget de 34 millions par an. Ce qui peut paraître beaucoup, mais enfin pour un hôpital, c'est vraiment un tout petit hôpital, alors qu'il en faudrait 36, 37, et tout le monde le sait. C'est tout simplement des patients qui restent dehors en souffrance, et bon, déjà eux qui ne vont pas bien du tout, et puis qui font souffrir tout le système autour, c'est-à-dire la famille quand ils en ont, ce qui arrive parfois, mais c'est assez rare, et surtout tout simplement le système social, les assistantes sociales qui sont autour, qui constatent ça, les maires des petites communes. On pourrait vous donner plein d'exemples, mais dernièrement, notre hôpital a mis dehors, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un patient qui est connu depuis des années, par manque de place. Ce monsieur est à la rue. Il y a beaucoup de patients qui, n'étant pas pris en charge correctement ou n'étant pas pris en charge du tout, par les hôpitaux publics du département, qui choisissent d'aller se faire soigner à Toulouse. C'est un mécanisme qu'on connaît bien et qui est connu de tous, d'ailleurs, y compris de l'ARS, qui dit se battre contre ça, mais enfin, elle le dit simplement. Nous, on considère là, aujourd'hui, la revendication actuelle, c'est ne pas fermer ces 20 lits sur notre hôpital. On s'est battu il y a quelques années et on va voir arriver une nouvelle maison d'accueil spécialisée pour des personnes lourdement handicapées. Donc ça, c'était un succès, on va dire, revendicatif et de la lutte des salariés et de notre syndicat CGT à l'hôpital psychiatrique. Comme revendication, on a également forcément donc l'ouverture de lits supplémentaires. On les avait chiffrés à une dizaine de lits d'urgence. Ça avait failli aboutir il y a quelques années. Et puis, recul sous la contrainte budgétaire. Ces 10 lits n'ont jamais ouvert et on se constate aujourd'hui qu'ils nous manquent cruellement pour pouvoir soigner. Moi, je dirais que ceux qui considèrent qu'il n'est pas utile de lutter ou qu'on ne peut pas gagner, ils vivent dans un luxe que nous, on n'a pas. On ne veut pas voir partir l'hôpital public en lambeaux, morceau par morceau. Oui, la lutte paye, elle ne paye pas assez aujourd'hui. Mais enfin, là, nous, on mesure sur notre hôpital les avancées qu'on a eues au fil des combats. Et du coup, ça nous donne du cœur à l'ouvrage pour continuer. Quand je constate les réponses que notre hôpital peut apporter au désespoir humain et donc à la souffrance mentale, je me dis que c'est pas possible. Et du reste, il suffit de discuter avec les gens qui nous entourent pour nous dire, et ils nous disent, mais qu'est-ce que fait l'hôpital? Comment ça se fait? Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc c'est de moins en moins une fierté de travailler dans cet hôpital-là. Pour autant, la fierté, on la tire du combat, parce qu'on sait qu'on peut changer les choses. Les pouvoirs publics financent ce qui se voit, et la psychiatrie se voit un peu moins, sauf dans des cas exceptionnels, où il est souvent trop tard.
Face à la disparition des services publics et à l'inaction de l'État, des stratégies se développent au niveau des collectivités pour envisager une réimplantation. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Césaire.
C'est une mobilisation qu'il faut toujours maintenir pour faire comprendre au pouvoir public qu'il est important pour, dans l'égalité des territoires, pour l'accès à la mobilité de ceux qui ne peuvent pas avoir des moyens personnels de locomotion, pour le désenclavement de tous et de toutes. C'est important de se battre sur ça, bien sûr. Après, c'est une bataille à chaque fois parce que tous les services publics sont touchés. Et répondre à tous ces manques, c'est un vrai défi que nous avons à relever. Mais les usagers, les concitoyens sont très attachés au service public. Alors ça, c'est un grand défi que nous avons, toucher les citoyens pour que l'analyse politique rejoigne les actions du terrain. Parce que le problème de nos politiques, c'est qu'ils semblent défendre certains services tout en les tuant. Faut voir l'hôpital public, faut voir l'éducation nationale, enfin tous les services. Donc comment toucher les citoyens pour qu'ils relient les discours politiques avec les réalités du terrain, c'est un défi que nous avons à relever chaque jour.
Alors, on développe beaucoup les formations, on essaie de trouver des canaux d'information, on fait des opérations de tractage, bien sûr, on fait des opérations de sensibilisation, on participe aux mouvements sociaux interprofessionnels pour faire comprendre qu'il s'agit de l'intérêt de tous. Si l'hôpital se meurt, vous êtes directement touchés. Mais c'est vrai que c'est un grand défi de faire que chacun comprenne les attaques qu'ils subissent, eux, au quotidien, en fait. C'est un défi qu'il nous faut relever et sur lequel on s'attache. Au Césaire, on le porte, hein, ça, on le porte dans les différentes commissions. Et on peut aussi remarquer que c'est entendu. Comme c'est composé aussi beaucoup d'associations, les associations sont les premières à défendre souvent les services publics. Donc on arrive à faire consensus contre certains intérêts qui défendraient plus l'accès individuel et privé. On a quand même un bon soutien pour assurer une équité sur l'accès aux services. Et le Gers, comme c'est un département rural, est frappé encore plus durement que ne peut l'être la métropole toulousaine. Aujourd'hui, nous avons les conséquences du peu de médecins effectivement diplômés qui sortent de ces longues études. Et l'une des pistes les plus positives, c'est justement le salariat des médecins, salariat que porte la région Occitanie, qui a donc d'ores et déjà salarié une vingtaine de médecins. Donc les premiers, par exemple, se sont installés dans un centre de santé à Fleurance, qui était donc complètement en manque de médecins. Il y a une étude qui a été faite justement auprès des étudiants en médecine pour connaître leurs tendances de leur future vie professionnelle, et à 66%, les futurs médecins répondaient que c'était le salariat et non plus l'exercice en libéral qui les tentait. Alors il y a plusieurs explications à ça, hein. C'est de plus en plus féminin. Le salariat protège au niveau des maternités et de tout ce qui entoure la question des contraintes familiales, alors que le libéral ne protège pas. Donc du coup, le salariat offre ce côté rassurant. Il offre aussi dans ces centres de santé une pluridisciplinarité qui permet en collectif médical de réfléchir sur des patients qui sont atteints justement de plusieurs pathologies. Ils cassent l'isolement de l'exercice en libéral, et heureusement qu'il y a cette solution pour lutter contre la désertification médicale qui arrive petit à petit à s'imposer en Occitanie et notamment dans le Gers. Ils ont créé un groupement d'intérêt public qui donc, avec l'aide des collectivités, va salarier ses médecins et va rééquilibrer l'offre de santé qui ne se trouvait plus, et notamment dans le Gers, pour permettre aux futurs patients et futurs besoins que nous avons tous de santé d'y répondre. Hein. C'est une vraie piste. Ça répond à une politique générale de privatisation, de marchandisation, de tout ce qui peut rapporter et faire grossir des quelques intérêts marchands. C'est quand même une idéologie qui est servie par beaucoup de partis et d'hommes qui font que on préfère engraisser quelques milliardaire que offrir une offre de santé à tout un chacun. Il faut que ça rapporte les services. Les services publics, il y a peu de temps qu'on reconnaît qu'un fonctionnaire produit, qu'il rentre dans le PIB. Il y a peu de temps. Pourtant, il y a bien une production de services.
Face à la menace de la disparition de certains services publics dans les communes rurales, comme c'est le cas de l'école de Lasséran, les mobilisations citoyennes peuvent s'avérer cruciales, comme nous l'a confié Michel Soriano, maire de Lasséran, qui a lutté contre la fermeture d'une de ses classes.
Il y a quelques années, où je me suis fait évacuer de l'inspection académique par les gendarmes, puisque l'inspecteur, le DASEN de l'époque, hein, c'est pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, je le respecte, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais il assure quand même un maximum. Et le Dazen de l'époque m'avait dit, voilà, si vous n'avez pas 70 enfants, je vous ferme une classe. Et j'en avais 69. Donc je suis sorti, bon, c'était les règles imposées par l'État, donc j'ai dit, d'accord. Je sors du bureau et je vais à la chasse aux enfants. Et je trouve deux enfants de familles, de communes limitrophes, qui ne savaient pas trop où les mettre, donc ils les ont mis à la serrande. Donc j'étais fier comme tout, je reviens le voir 15 jours après, je lui dis, hey, vous savez, j'ai 71 enfants. Ah ben voilà, c'est bien, donc 71, on viendra compter à la rentrée, mais on vous gardera la quatrième classe. Bon, j'étais content comme tout. 10 jours après, je reçois un courrier comme quoi ils ferment la classe. Ouh là 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 là. Alors là, le sang m'est monté à la tête. Hein. Et donc, j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que je peux rencontrer le Dazen? Il n'est pas là. C'était le lundi. J'ai rappelé le mardi. Il n'est pas là. Mercredi, il n'est pas là. Jeudi, il n'est pas là. Jeudi, je lui dis à la secrétaire, dites à monsieur Dazen là, que demain, à 16h, je suis devant son bureau. Mais il n'est pas là. Je m'en fous. J'ai dit, je passe le week-end, mais je resterai tant que je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là, il ne peut pas vous recevoir. Moi, je m'en fous. 16h30 ou 16h, je serai devant son bureau. Et à 16h, je me suis pointé avec 10 mamans et un conseiller de Saint-Jean-Contal, puisqu'on est un regroupement scolaire, et le président du regroupement scolaire. On s'est retrouvé à 12. J'arrive à 12, la porte fermée à clé. Manque de peau, il y a un livreur qui est arrivé et qui a ouvert la porte. C'était un digicode, il a ouvert la porte. Hein, clac. Et hop, on rentre. On rentre, on n'allait rien casser. Moi, je suis non-violent. Donc, descend un molosse, hein, un type de 30 ans. Foutez le camp! Oh, calmez-vous, monsieur. Il n'y a aucune crainte, nous ne casserons rien, nous sommes non-violents. Dégagez! Alors, on n'a pas bougé. Alors, l'autre, l'adjoint de la commune d'à côté, était un jeune assez physique. Et je pense qu'ils allaient se foutre dessus si je n'interviens pas. Bon, il s'est calmé. Cinq minutes après, il y avait deux gendarmes qui arrivent. 10 minutes après, deux autres. Un quart d'heure après, la commissaire de police. Et 20 minutes après, il y a trois Robocop. Avec l'armure, voilà, tout ça. Là. Donc, la commissaire de police, bon, mais monsieur le maire, il faut sortir. Non, non, j'ai dit, je ne sors pas. Monsieur le Dazen là, m'a dit une chose, il ne tient pas parole, il m'a écrit autre chose, donc moi, je ne pars pas tant que je ne l'aurais pas vu. Mais il n'est pas là, je m'en fous, j'ai dit, je passe le week-end ici. Hein. J'allais le faire, hein. Je ne l'ai pas lâché. Hein. Puis la commissaire de police, elle a essayé de parler, les parlementaires, et l'un, l'autre, tout ça. Et alors je leur avais dit aux autres, aux mamans, si on prend à partie tout ça, dites que c'est le maire qui suit, comme ça vous prendrez, vous chargerez pas. Et au bout de 35-40 minutes, la commissaire de police, elle a dit, maintenant c'est bon, allez, on vous dégage. Alors je leur ai dit, vous allongez par terre et vous ne bougez pas, aucun geste de violence. Donc on s'est allongé, les bras en croix. Et les gendarmes ont commencé à nous prendre un à chaque jambe, un à chaque bras, ils nous ont sortis. Et puis moi, j'étais l'avant-dernier. J'ai dit à la maman qui restait avant moi, la dernière, j'ai dit, prends des photos. Et ils nous sortent, arrivent à la dépêche du midi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Je ne sais pas comment il a été prévenu, mais à peine j'étais sorti, il y avait la dépêche du midi. Et je lui explique ce qui s'est passé là. Et vous avez des images? Ben, j'ai dit, tenez, madame telle, elle a pris des photos. Elle arrive. Ah non, j'ai pas pris des photos, j'ai fait un film. Ah ben, j'ai dit, super.
Ça sera mieux.
Ouais, ouais. Et alors, la journaliste s'est dépêchée, vous pouvez me le transférer. Bon, ils étaient côte à côte, alors c'était il y a 10 ans, mais clac, clac. Ils se sont transférés le film. Et moi, je découvrais qu'on pouvait se transférer le film. Maintenant, je le sais, mais depuis longtemps. Mais... Voilà. Et résultat. Le lendemain, Europe 1 m'appelle, je suis passé sur Europe 1 pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Parce que l'info, elle part sur l'AFP, Et l'AFP centralise tout ce qui se passe dans toutes les régions de France, vous le savez mieux que moi, et ensuite chaque journal achète l'article qu'il souhaite. Voilà. Il y avait 2-3 régions qui avaient acheté cet article, parce que j'avais eu des échos de copains qui habitent un peu par-ci, à Lyon, à Bordeaux et en Alsace, je crois qu'il y avait. Bon, voilà. Résultat final, alors, ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde politique était en émoi sur le Gers. Surtout pas de vagues, surtout pas de vagues. Et moi, j'ai comme si je me calmais, ça ne tiendrait pas ce que je veux. Donc j'ai fait le mec énervé. Et je leur ai dit que j'allais foutre le feu. Ah, j'allais le foutre le feu. Je savais comment faire. Hein. Et il y a un sénateur, que je dirais le nom, dit Michel, il me tutoyait alors que je ne le connaissais pas. Il me dit je peux te t'arranger un rendez-vous avec le Dazen, mais un soir à 20h, quand il n'y aura personne. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais une condition, que tu sois là. Parce que lui, il va foutre le bureau en vrac, et il va dire que c'est moi qui l'ai fait, et les gendarmes vont m'embarquer. Donc j'ai pas confiance en ce type, c'est un tricheur. Oui, d'accord. Donc on y est allé à 20h avec le sénateur, le Dazen et moi. Et alors, moi je lui ai parlé cru. Hein. J'ai dit, vous êtes un menteur, je ne peux plus avoir confiance en vous. Donc vous allez me dire pourquoi vous ne tenez pas parole. Mais non, monsieur, je vous assure, le poste sera gardé. Non, regardez la lettre. J'ai dit, montre au sénateur, il dit, qu'est-ce que tu comprends? Ouais, mais tu sais, c'est leur langage administratif. Moi, je suis un con, je comprends rien. Donc, il faut que vous l'écrivez simplement. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous écrive? Prenez un papier. Et je lui licte la lettre qu'il doit me faire. Alors, il me l'écrit, tout ça. Et puis, quand il a eu fini la lettre, je me lève, je lui prends le papier. Je relis le papier devant lui. Ouais, ça va. Faites-vous une photocopie et je garde le brouillon. Ah non, vous pouvez le garder. Je sais ce que j'ai écrit, me dit le gars. Ouh là, je me dis, le mec il va t'interroger. Et il dit, bon, d'accord, pas de problème. Mais faites attention, parce que si c'est pas respecté ce que vous avez écrit là... Mais non, Michel, le sénateur, il était malade. Non, Michel, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ça. J'ai pas confiance en ce type, il était devant moi. C'est un menteur, c'est un tricheur, tout ça. Mais non, calme-toi. Tu vas voir, je vais vous foutre le feu, mais au niveau national, il va se passer des choses que le Gers sera à la une de TF1. Qu'est-ce que non, Michel, calme-toi. Mais j'étais pris à mon propre jeu, il fallait que je fasse un peu le mec excité. Bon. Et résultat, ben, le jour de la rentrée, ils sont venus avec 3 personnes de l'inspection académique et le fourgon de flics. Les flics, ils étaient gênés comme eux. Ils ne savaient pas où se mettre. Et ils sont venus et ils ont compté les enfants. Il y en avait 2 de malades, donc on était 69. Mais comme il y avait les 2 de malades, c'était bon. Et ils ont gardé le poste. Et du coup, on a toujours le 4e poste, alors qu'on est en dehors, même peut-être des clous. Mais bon, je ne suis pas fier, je le dis en plaisantant, mais c'est pour dire que la lutte, elle paye. Et si j'avais rien fait, je serais mort depuis longtemps.
Dans le Gers, de nombreux services publics sont touchés par une disparition progressive faisant suite à une vague de réformes de l'action publique. Les territoires ruraux, de par leur situation, sont davantage touchés. Leur éloignement des infrastructures de transport ou du numérique renvoie les habitants à un sentiment de relégation et d'abandon. Si l'implantation des services publics n'est aujourd'hui pas à la hauteur des attentes des acteurs de la ruralité gersoise, l'espoir est permis grâce à la solidarité des collectivités et des locaux qui se mobilisent pour que vive le service public dans nos campagnes. Rassemblements citoyens, lutte des syndicats sur le terrain et initiatives des collectivités territoriales, le service public peut se vanter d'être toujours une des préoccupations majeures des Gersois qui ne sont pas prêts à l'abandonner à son triste sort. Dans ce documentaire sonore, nous avons eu le plaisir de recueillir le témoignage de nos acteurs locaux. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental, régional, qui remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de la région. Éric Cantarouti, secrétaire général CGT du Gers, portant les luttes pour la sauvegarde des services publics dans le territoire gascon. Michel Soriano, maire de Lasserran depuis 2008, et André Belvez, agriculteur à la retraite, tous deux témoins de la disparition des services publics dans leur commune depuis de nombreuses années. Et enfin Fabrice Lamarque, délégué syndical de l'hôpital psychiatrique d'Auch, ayant constaté et vivant la dégradation de l'hôpital public dans le Gers. Un grand merci à eux.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO, www.crlo.fr.